OK, on va commencer notre 32e leçon dans notre série « Le péché, les 10 commandements, la grâce ». Alors aujourd'hui, on va voir le 10e commandement de Dieu, ce qui est requis et également ce qui est défendu. Alors on fait une brève révision de l'ensemble des 10 commandements avec les principales choses qu'il nous commande et qu'il nous défend. Alors le premier concerne qui nous devons adorer. Le deuxième, comment nous devons adorer. Le troisième, que nous devons craindre Dieu et ne pas utiliser son nom en vain. Le quatrième concerne qu'un jour sur sept, il soit pleinement consacré pour l'adoration, qu'elle soit individuelle, familiale et collective, et aussi pour le repos. Les six derniers commandements, on sait que ce sont les commandements qui nous rappellent nos devoirs envers notre prochain. Alors, ce sont véritablement les six piliers de l'ordre social. Le cinquième commandement concerne nos devoirs envers nos parents et les autorités en général. Le sixième commandement concerne nos devoirs envers la vie humaine et la protection de la personne. Quant au septième, il concerne nos devoirs envers la sainteté de nos corps, du mariage et de la famille. Le huitième concerne la protection des biens. Le neuvième concerne la protection de la réputation. Et le dixième concerne l'interdiction de la convoitise. On le trouve au chapitre 20 d'Exode, verset 17, qui nous dit « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. » Alors, c'est une loi sur nos esprits, le désir de pécher. Alors, l'autre, c'est vraiment une loi sur notre comportement, nos actions, tandis que celui-là, c'est vraiment une loi qui concerne plus au niveau de l'esprit. Alors, c'est le commandement qui nous indique qu'une conformité extérieure au commandement de Dieu est insuffisante. La conformité doit s'exercer jusque dans nos esprits. Alors, on rappelle, les Écritures nous enseignent qu'il y a 4 degrés dans notre désir de pécher, et un amène l'autre. Alors, l'apparition dans nos esprits, bien sûr, il y a comme une idée qui nous montre à l'esprit, qui nous donne envie de pécher. La deuxième, c'est l'entretien volontaire et la complaisance dans cette idée-là. Alors, à ce moment-là, on la garde dans notre esprit et on se complaît à la développer, ne serait-ce que dans nos têtes. Et le troisième, c'est que là, à ce moment-là, il y a un assentiment avec une approbation qui se passe dans notre esprit. Et la quatrième amène vraiment la résolution de commettre le péché. Alors, on va regarder notre premier point, ce qui est requis par le 10e commandement de Dieu. Alors, il faut d'abord regarder comment on peut définir la convoitise. Alors, une définition simple de la convoitise serait de désirer ce qui appartient à autrui. Alors, les Saintes Écritures ont beaucoup à nous dire sur le péché de la convoitise et de ses graves dangers. La première chose que les Écritures nous rappellent, c'est que la convoitise est de l'idolâtrie. Alors, l'idolâtrie, c'est de donner aux choses la place qui appartient à Dieu seul. Éphésiens, chapitre 5, verset 5, « Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu, que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. » Donc, Dieu admet la légitimité de la richesse quand elle s'accompagne d'une juste estimation et d'une juste valeur dans notre esprit. La richesse peut servir à faire du bien, comme supporter nos familles, aider les pauvres, soutenir la cause de Christ. Cependant, à cause du fait que le péché pervertit tout, la richesse devient une source de tentation. Elle peut même s'avérer séduisante, dangereuse et conduire à la ruine spirituelle. Alors le Seigneur Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il est venu sur la terre, nous a averti de cela dans Matthieu 19, au verset 24 à 26. « Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » 1 Timothée, chapitre 6, verset 10, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Alors, la première chose, c'était que la convoitise était de l'idolâtrie. La deuxième, sa convoitise crée des obstacles à la vie spirituelle. Alors, on se rappelle de la parabole des semences dans Matthieu 13, verset 22. Alors, le Seigneur dit, « Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. » Jésus n'a pas condamné universellement les riches. Il les a alertés des dangers qui les menacent, notamment l'orgueil et la cupidité. La richesse est une épreuve, car il est difficile d'être riche et de conserver un cœur de pauvre. Luc, chapitre 16, versets 13 à 15. « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Les pharisiens, qui étaient avares, écoutaient aussi tout cela, et ils se moquaient de lui. Jésus leur dit, « Vous, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. » Proverbes au chapitre 30, versets 8 et 9, « Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise « Qui est l'Éternel ?» ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de Dieu, au nom de mon Dieu. » Jésus n'a pas condamné universellement les riches, il les a alertés des dangers qui les menacent, notamment l'orgueil et la cupidité. Proverbes 23, versets 4 et 5, « Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. » En bref, ce que le Seigneur veut, c'est ceci, que nous lui donnions notre cœur. Proverbes 23, verset 26, « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Alors, on parlait que la convoitise créait des obstacles. On va les identifier, les obstacles. Le premier obstacle, c'est l'obstacle des soucis accrus. Marc 6, verset 19, « D'autres reçoivent la semence parmi les épines, ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. » On le sait, les gens riches ont souvent énormément de soucis, de peur de perdre ce qu'ils ont. Et le deuxième obstacle, c'est l'obstacle du temps mal utilisé. Éphésiens, chapitre 5, verset 16, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » L'obstacle de l'orgueil aussi. Psaume 49, versets 6 à 11. Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent racheter l'un et l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la vue de la fosse, car ils la verront. Les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également, et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. L'obstacle de l'avidité insatiable. Ecclésiaste, chapitre 5, verset 10. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. L'obstacle aussi de la tentation des biens mal acquis. Jérémie 17, verset 11, « comme une perdrix qui couve des œufs qu'elle n'a point pondus. Tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter, et à la fin, il n'est qu'un insensé. Maintenant, un autre obstacle, celui d'éviter la mortification du péché, du renoncement à soi-même. On sait qu'en général, les riches ne sont pas très portés sur la mortification du péché. Alors, Philippiens, chapitre 3, verset 19, « Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » Aussi, l'obstacle du refus de la réprimande, Proverbes chapitre 9, versets 7 et 8. « Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain, et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse, reprends le sage et il t'aimera. » Peu d'hommes peuvent vivre sagement dans la richesse. Beaucoup de riches sont persuadés que leur richesse provient de leur grand talent, de leur sagesse, ou de leur capacité, de leur sagacité et de leur supériorité intellectuelle. Quoi qu'il peut y avoir un peu de vrai là-dedans, mais c'est pas tout le temps vrai. Souvent, c'est de la malhonnêteté et bien d'autres choses semblables. L'obstacle aussi de l'apparente indifférence de Dieu face au mal. Proverbe 55, verset 19. Dieu entendra, il les humiliera, lui qui de toute éternité est assis sur son trône. Car il n'y a point en eux de changement, ils ne craignent point Dieu. Alors, un des problèmes avec les riches, c'est que, vu qu'ils voient qu'ils mènent toute leur vie en volant, en méprisant les autres, en les exploitant, puis que Dieu n'intervient pas, alors ils s'imaginent qu'il n'y aura pas de conséquences à leurs actes. Alors, l'apparence est différente de Dieu face au mal. Un autre obstacle, c'est l'obstacle de la flatterie des hommes. On sait que les hommes riches, ils ont toujours un paquet de gens qui sont autour d'eux, qui essayent de siphonner, comme on dit. Alors, Proverbe 29, verset 5, « Un homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas. » Maintenant, l'obstacle de l'autosuffisance aussi. Alors que nous, on se devrait d'aller de plus en plus vers la pleine dépendance de notre Dieu. Eux, ils veulent être complètement indépendants de tout. Alors, Luc 6, verset 24 et 25, « Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. » Et bien entendu, l'obstacle de l'avarice, parce qu'on le sait, l'homme, plus il en a, plus il en veut. Alors, à vous, maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Troisième point, la convoitise. Comment on peut faire pour savoir s'il y en a dans nos vies? Les signes de sa présence dans nos vies. Un des signes, c'est que lorsque toutes nos pensées sont absorbées par les choses du monde. Matthieu, chapitre 16, verset 26. « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? » Autre signe, c'est que lorsque toutes nos conversations tournent autour des choses temporelles et terrestres. Matthieu, chapitre 6, verset 21. « Car là où est votre trésor, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Troisième signe, c'est lorsque nous sommes tentés d'échanger le bien de notre âme contre des choses matérielles. Luc 12, versets 16 à 21. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui ramasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Le deuxième point qu'on va regarder, c'est le dixième commandement, ce qui est requis. Alors, ce qui est requis, c'est le contentement. Hébreux, chapitre 13, verset 5, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Alors, je rappelle qu'on a déjà fait au moins une étude de 5 ou 6 sermons sur le sujet du contentement. Deuxième chose qui est requis, la charité envers autrui et une bonne disposition envers ses biens. Romains 12, verset 15. « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. » Et aussi Philippiens, chapitre 2, verset 4. « Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Comme troisième point, on va regarder le dixième commandement, ce qui est défendu. Alors, bien entendu, si on dit que ce qui est requis, c'est le contentement, le mécontentement, c'est ce qui est défendu. 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 10 et 11. « Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Un roi, chapitre 21, versets 1 à 4, on se souvient de l'histoire d'Akab. Il était roi, alors il n'y avait rien qui lui manquait, mais il voulait avoir la vigne de Naboth. Alors, après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel et à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth. « Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Akab, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. » Akab rentra dans sa maison, triste et irrité, à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jizréel, « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. » Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. On se souvient que Jézabel est venue le voir, puis elle a dit, « Moi, je te la donner la vigne, puis elle a payé du monde pour qu'elle dise qu'elle avait blasphémé, puis elle l'a fait lapider, puis là, il a pris possession. » Alors, on voit que quelque part la convoitise, ça peut faire des choses extrêmement graves. Donc, ce qui est défendu, le mécontentement de notre état. La deuxième chose qui est défendue, c'est l'envie. Galates, chapitre 5, verset 26. « Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. » Autre chose qui est défendue, s'attrister du bien qui arrive à autrui. Psaume 112, versets 9 et 10. « Il fait des largesses, il donne aux indigents. » Sa justice subsiste à jamais, sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit, il s'irrite, il grince des dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. C'est un péché assez terrible quand on se rend compte qu'on a ça dans nos vies. Hein. Ça, il arrive du bien à quelqu'un, puis on dirait que ça nous dérange intérieurement. Quand on se rend compte de ça, là, c'est vrai que c'est attristant, on se rend compte que le péché d'envie, ce n'est pas juste les autres qui l'ont. On peut l'avoir nous aussi. Tous les hommes l'ont, je pense, à un degré différent. Aussi, autre chose qui est défendue, toutes les affections désordonnées envers le bien d'autrui. Romains 7, verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit « Tu ne convoiteras point. » Deutéronome, chapitre 5, verset 21. « Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, Tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. » Alors, Colossiens, chapitre 3, verset 5, « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. » Romains, chapitre 13, verset 9, « En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » On a aussi Luc 12, verset 15. Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » On a aussi Marc 7, verset 21-23, « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans et souillent l'homme. » 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 9 et 10. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Alors, j'ai mis trois applications qui suivent en gros les titres des trois chapitres. La première, « Sommes-nous pleinement conscients que la convoitise est de l'idolâtrie, qui érige toute une série de barrières à la croissance spirituelle dans nos vies. Prions l'Éternel de nous sonder intensément pour déceler toute présence de convoitise dans nos vies et les grâces nécessaires pour les combattre vigoureusement en vue de leur élimination. » Deuxième application, avons-nous appris le contentement biblique? Sommes-nous toujours charitables envers notre prochain? Et avons-nous la bonne attitude devant les biens de notre prochain? Que le Seigneur nous donne de penser et d'agir selon les Saintes Écritures. Troisième application, voyons-nous des signes de mécontentement dans nos cœurs? Nous arrive-t-il d'envier les autres? Nous surprenons-nous à nous attrister du bien qui arrive à autrui? Découvrons-nous des affections désordonnées envers le bien des autres? Que le Seigneur nous délivre de tous nos péchés de convoitise, par sa grâce et pour sa gloire. Amen.